Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée lundi 27 septembre, notamment par les audiences du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Soudan, en Algérie et au Nigeria, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape a reçu lundi matin au Vatican les membres de l'Académie pontificale pour la vie qui commençait deux jours d'Assemblée générale. Il les a encouragés à poursuivre leurs engagements au service de la vie humaine, en favorisant les synergies entre différentes disciplines et en ayant à cœur de surmonter les inégalités mises en évidence par la pandémie. La santé publique dans l'horizon de la mondialisation, tel est le thème qui rassemble les participants à cette Assemblée générale de l'Académie pontificale pour la vie, à l'heure où la pandémie continue d'affecter de nombreux pays. Il est essentiel de réfléchir calmement afin d'examiner en profondeur ce qui s'est passé et de voir la voie d'un avenir meilleur pour tous, a assuré le souverain pontife devant les académiciens reçus en salle Clémentine. Pire que cette crise, il y a seulement le drame de la gaspiller, a-t-il répété, reprenant les mots de son homélie de Pentecôte. Le thème de la santé publique permet d'aborder des aspects importants pour la coexistence de la famille humaine et pour le renforcement d'un tissu d'amitié sociale, a poursuivi le pape en invitant à garder ce regard large. En effet, la pandémie a mis en évidence la profondeur de l'interdépendance tant entre nous qu'entre la famille humaine et la maison commune. Il est donc nécessaire de traduire ces liens par une synergie entre différentes disciplines. L'objectif n'est pas seulement de comprendre les phénomènes, mais aussi d'identifier des critères technologiques, politiques et éthiques d'action en ce qui concerne les systèmes de santé, la famille, le travail et l'environnement, a expliqué François. Cette approche est importante dans le domaine de la santé, laquelle dépend de la vie sociale. On peut aussi remarquer qu'il ne suffit pas qu'un problème soit grave pour qu'il soit signalé et traité de cette manière. De nombreux problèmes très graves sont ignorés faute d'un engagement suffisant, comme la tuberculose, a regretté le Saint-Père. Ce traitement inégal est particulièrement évident si l'on considère la pandémie de COVID-19 par rapport à d'autres maladies qui continuent, elles aussi, à faire des ravages. Bien sûr, nous avons raison de prendre toutes les mesures pour contenir et vaincre la COVID-19 au niveau mondial, a déclaré le souverain pontife, mais ce moment historique où notre santé est menacée de près doit nous faire prendre conscience de ce que signifie être vulnérable et vivre dans la précarité au quotidien. Et le pape d'encourager à s'intéresser aussi des personnes vivant dans de graves conditions sans projeter sur elles nos propres priorités, parfois mal ajustées aux leurs. L'engagement en faveur d'une distribution équitable et universelle des vaccins est donc importante, mais il doit tenir compte du domaine plus large dans lequel les mêmes critères de justice sont requis pour les besoins de santé et de promotion de la vie, a expliqué François. Nous affirmons que la vie et la santé sont des valeurs également fondamentales pour tous, fondées sur la dignité inaliénable de la personne humaine, a-t-il poursuivi. Mais si cette affirmation n'est pas suivie d'un engagement adéquat pour surmonter les inégalités, nous acceptons en fait la douloureuse réalité que toutes les vies ne sont pas égales et que la santé n'est pas protégée pour tous de la même manière. Le Saint-Père a notamment plaidé pour un système de santé gratuit dans chaque pays, d'où cette invitation du Saint-Père à soutenir les initiatives internationales visant à créer une gouvernance mondiale pour la santé de tous les habitants de la planète, c'est-à-dire un ensemble de règles claires et concertées au niveau international qui respectent la dignité humaine. En effet, le risque de nouvelles pandémies restera une menace à l'avenir. L'Académie pontificale pour la vie peut, à cet égard, apporter une contribution précieuse afin que la proposition anthropologique chrétienne inspirée de la révélation puisse également aider les hommes et les femmes d'aujourd'hui à redécouvrir comme primordial le droit à la vie de la conception à sa fin naturelle, a souligné François, encourageant l'entité vaticane à s'impliquer dans le débat public de manière appropriée. Le pape a dénoncé une nouvelle fois la culture du déchet qui tue les enfants à naître et met à l'écart les personnes âgées. Et sur ce point, vous, académiciens, les universités catholiques et même les hôpitaux catholiques ne pouvaient pas vous permettre d'y aller. C'est une voie que nous ne pouvons pas emprunter, la voie du rebut, a-t-il insisté. Au Bénin, la congrégation des sœurs franciscaines, filles de Padre Pio, dans l'archidiocèse de Cotonou, s'est agrandie de deux nouvelles religieuses. Il s'agit de sœurs Alice Tokbanou et Chantal Pantenvo.
Elles ont émis leurs vœux perpétuels le mercredi 22 septembre 2021 en l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Cotonou devant l'évêque de Dassazoumé, Monseigneur François Nkosu, qui a dit la messe d'action de grâce en présence de leur supérieur général, Mère Madeleine Coty. Cette célébration a enregistré également la profession temporaire d'un an de deux autres filles, Sœur Julienne Akodoudia et Florence Tossou. La joie de la mère Coty ne s'est donc pas fait attendre.
Mes sentiments sont des sentiments de gratitude envers Dieu pour notre institut et envers son Église au service de l'humanité. Nous avons comme charisme la compassion pour la sanctification du nom de Dieu et le salut des âmes.
Les textes de la liturgie du jour ont donné à Monseigneur Nkosu, dans son homélie, l'occasion de s'adresser à l'assistance.
Notre monde aujourd'hui manque de compassion. Il y a trop d'arrogance, arrogance de puissance d'argent, de puissance de pouvoir, de parole. Demandons à Dieu miséricorde de nous aider à nous débarrasser de ce qui est puissance humaine et qui a tendance à écraser, à soumettre les gens.
Guy de Souyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
La nouvelle école africaine, structuration et pertinence pour une Afrique nouvelle, tel est le titre du nouvel opuscule que l'archevêque de Yaoundé au Cameroun, Monseigneur Jean Barga, vient de publier. Le document a été présenté aux fidèles vendredi 24 septembre et mis à la disposition du corps enseignant. Notre correspondante locale nous en parle.
Il s'agit d'une contribution au développement du système éducatif en Afrique, contribution qui a été accueillie avec joie par la communauté éducative à Yaoundé. Monseigneur Jean Barga.
Le 15 octobre 2020, le pape François nous a lancé un appel sur le pacte éducatif mondial. Je me suis senti interpellé et j'ai publié cet opuscule pour guider les formateurs, les éducateurs, dans cette recherche d'un système éducatif qui s'adapte à l'Afrique et qui correspond aux valeurs intégrales que l'Église veut promouvoir. Donc nous devons nous mobiliser pour que la nouvelle identité de l'école africaine soit à la fois chrétienne, respectueuse de la modernité et de la tradition, pour une harmonisation d'une société nouvelle, capable de faire face aux défis et surtout aux crises qui dévorent ce continent si fréquemment.
L'opuscule met en valeur l'identité africaine, l'identité chrétienne et les grandes questions qui traversent aujourd'hui la modernité pour que l'éducation aille au-delà de l'académique et intègre toutes les valeurs humaines pour une société juste, fraternelle et pacifique. Paul Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les exportations de pétrole en provenance du Soudan du Sud vont pouvoir reprendre via le port soudanais de Bachaer après un accord avec des manifestants qui le bloquaient, c'est ce qu'a annoncé Khartoum dimanche soir. Cet accord est intervenu quelques heures après l'envoi par Khartoum d'une délégation ministérielle auprès des contestataires qui bloquaient le port et deux oléoducs. La réunion entre la délégation gouvernementale dirigée par le général Kabashi membre du Conseil de souveraineté et une délégation du Conseil Béja, a abouti à un accord autorisant le passage des exportations pétrolières sud-soudanaises par le port de Bachayer, a déclaré dans un communiqué le Conseil de souveraineté de Khartoum, un organe militaro-civil qui chapeaute la transition avec le gouvernement civil. Bachayer est le principal terminal proche de Port-Soudan, à partir duquel le pétrole du Soudan du Sud, un pays enclavé, est expédié vers les marchés mondiaux. Des hommes armés qui avaient enlevé dans le nord-ouest du Nigeria plus d'une centaine d'élèves dans une école chrétienne en ont libéré 10 d'entre eux. C'est ce qu'a annoncé dimanche le représentant des parents d'élèves. Depuis le rapt de 121 élèves le 5 juillet au pensionnat du lycée Baptiste Bethel Secondary School à la périphérie de la ville de Kaduna, 100 d'entre eux avaient été libérés ou avaient réussi à s'échapper tandis que 21 restaient encore aux mains de leurs ravisseurs. Les kidnappeurs ont libéré 10 élèves de plus, 11 autres élèves demeurent en captivité. Ce kidnapping de masse s'inscrivait dans une série d'enlèvements menés depuis des mois par des groupes criminels armés agissant dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Ces groupes qui mènent pillages, attaques et enlèvements sont d'abord motivés par l'appât du gain. Ils prennent pour cible des écoliers et des étudiants pour en obtenir des rançons et n'ont a priori pas de motivation idéologique, à l'inverse des groupes djihadistes qui sévissent au Nigeria. Une foule de fidèles ont convergé dimanche sur la ville de Touba dans le centre du Sénégal dans le cadre des célébrations annuelles de la confrérie soufie des Mourides. Le pèlerinage du Grand Magal commémore l'anniversaire de l'envoi en exil par les autorités françaises du fondateur des Mourides, Cheikh Amadou Bamba, dit Serigne Touba, né en 1853 et décédé en 1927. Ce rendez-vous incontournable au Sénégal attire généralement des centaines de milliers de pèlerins qui célèbrent la mémoire de Bamba en récitant ses poèmes, en priant sur sa tombe. Les Mourides d'obédience soufie sunnite forment l'une des quatre principales confréries qui continuent à jouer un rôle prépondérant dans la vie quotidienne des Sénégalais dont plus de 90% sont musulmans. Leurs chefs sont des figures éminemment respectées, écoutées des politiques dans ce pays.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Deux anciens premiers ministres du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sélal, déjà emprisonnés, ont été condamnés lundi à de nouvelles peines de prison pour des faits de corruption, ont rapporté des médias locaux. Poursuivis avec d'autres co-prévenus, notamment pour blanchiment d'argent, dilapidation de fonds, abus de fonction et conclusion de contrats en violation de la réglementation des marchés publics, messieurs Ouyaya et Sélal ont été respectivement condamnés à 6 et 5 ans de prison ferme, selon les télévisions privées Ennahar, Echourouk et Al-Ayat. Ils étaient jugés dans le cadre de l'affaire dite Hamid Melsi, ex-patron d'un établissement public gérant une luxueuse résidence réservée aux dignitaires du pouvoir et d'une société hôtelière publique qui lui s'est vu infliger 5 ans de prison.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur la santé avec Donatien Niembo.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
L'OMS, le PNUD, le PNUE et l'UNICEF se sont associés pour établir un nouveau recueil de 500 mesures visant à faire reculer la mortalité et la morbidité attribuables aux facteurs de risque environnementaux. Il s'agit du premier document de ce type qui réunit les apports de l'ensemble du système des Nations Unies dans ce domaine. C'est de cela que traitera notre magazine ce jour sur la santé. La pollution de l'environnement et les autres risques environnementaux sont à l'origine de 24% des décès dus, par exemple, aux cardiopathies, aux accidents vasculaires cérébraux, aux intoxications ou aux accidents de la route. L'application de mesures préventives audacieuses au niveau national, régional et local permettrait de faire reculer considérablement la mortalité, voire d'éliminer ces décès. Le recueil des lignes directrices de l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies sur la santé et l'environnement permet aux praticiens de prendre facilement connaissance de mesures pratiques, tandis qu'ils s'efforcent de créer des environnements sains propices à la prévention des maladies. Il s'adresse aux responsables de l'élaboration des politiques, aux personnels des ministères, aux gouvernements locaux, aux personnels des Nations Unies dans les pays et autres décideurs. Il présente des mesures et des recommandations visant à lutter contre un éventail complet de facteurs de risques environnementaux pour la santé, tels que la pollution de l'air, l'insalubrité de l'eau, le manque d'assainissement et d'hygiène, les changements climatiques et écosystémiques, les produits chimiques, les rayonnements et les risques professionnels, entre autres. La pollution de l'air entraîne à elle seule 7 millions de décès par an, tandis que les changements climatiques, compte tenu de leurs effets sur la biodiversité, devraient avoir de plus en plus d'effets directs et indirects sur la santé. Des événements tels que les températures records en Amérique du Nord, les inondations de grande ampleur en Europe et en Chine et les incendies de forêts dévastateurs rappellent de plus en plus fréquemment et tristement que le pays doit redoubler d'efforts pour éliminer les effets des facteurs de risque environnementaux sur la santé, a déclaré la docteure Maria Neira, directrice du département environnement, changement climatique et santé de l'OMS. La mise en œuvre des mesures préconisées dans le recueil devrait participer d'un monde en meilleure santé et plus soucieux de l'environnement après la pandémie de COVID-19 et elle est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable. Les Nations Unies apportent leurs compétences en matière de santé et d'environnement pour soutenir les pays dans cette entreprise, avait-elle ajouté. Le recueil, qui peut être consulté en ligne sur des pages interactives du site web de l'OMS et hors ligne au format PDF, aborde également la question de lieux où il faut agir en priorité, tels que les villes et les établissements urbains, ainsi que des sujets transversaux tels que la santé environnementale des enfants. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables face aux risques environnementaux qui peuvent affecter leur survie ainsi que leur santé et leur bien-être tout au long de la vie, avait déclaré Aboubakar Campo, directeur des programmes de santé de l'UNICEF. Des environnements sains sont indispensables à la santé des enfants. Nous estimons qu'un environnement sain permet de prévenir un éventail de maladies potentiellement mortelles et de manière assez significative jusqu'à un quart de décès d'enfants de moins de 5 ans. En outre, les environnements sains jouent le rôle de soins préventifs et contribuent à faire baisser les dépenses de santé inutiles pour les familles qui peuvent ainsi investir dans le progrès socio-économique, a-t-il ajouté. Le recueil peut également jouer un rôle important en faveur de l'équité en santé, car c'est dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires que les facteurs environnementaux pèsent le plus lourd pour tous les types de maladies ou de traumatismes. Le recueil peut servir à entamer un dialogue avec les pays sur les priorités de développement conformément au programme de développement durable à l'horizon 2030 et pour orienter les ressources en faveur d'un développement résilient propice à la santé, inclusif et durable, a déclaré la docteure Mandeep Dhaliwal, directrice du groupe VIH Santé et Développement du PNUD. Le recueil est évolutif. Des mises à jour y seront apportées et de nouvelles lignes directrices y seront ajoutées au fur et à mesure de leur disponibilité auprès des organisations partenaires. Chaque mesure est décrite succinctement. Un renvoi à la source permet d'obtenir de plus amples renseignements.
Invité du jour.
Notre invité du jour est encore une fois Mgr Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar au Sénégal. Dans un entretien accordé à Radio Vatican, l'archevêque de Dakar a mis en lumière la figure du premier cardinal sénégalais Hyacinthe Tiandoum, dont on commémore cette année le centenaire de naissance. Le cardinal Tiandoum aura notamment marqué les esprits par son combat en faveur du dialogue islamo-chrétien. Dans cette deuxième et dernière partie de cet entretien que nous vous proposons, Mgr Ndiaye commence par faire le bilan du dialogue entre musulmans et chrétiens au Sénégal. On l'écoute.
Le bilan est de manière vraiment générale positif. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que le Sénégal n'est pas un îlot. Nous vivons dans un monde globalisé avec ses tendances multiples. Il y a un djihadisme existant qui est à nos portes, qui peut connaître même des partisans chez nous. Et nous devons désamorcer ces bombes qui sont là, c'est des bombes à retardement. Et la meilleure manière de le faire, c'est de cultiver ces relations à travers d'abord une meilleure connaissance réciproque. L'islam confrérique a cet avantage qu'à sa tête, il y a des religieux patentés qui sont comme les garants de la paix sociale. Donc plus on se rapproche de ces leaders-là, plus on se donne les moyens de désamorcer tout ce qui pourrait être là comme menace. Et vraiment, je me réjouis que ces relations soient très bonnes. Il y a un domaine sur lequel il me semble qu'il y a une difficulté pastorale pour nous. C'est la question matrimoniale, les questions de mariage. Puisque pour nous, le mariage est possible avec celui que l'on aime ou celle qu'on aime. Mais à condition que celui qu'on aime ou celui, la personne que l'on aime, respecte votre foi. Or, l'islam permet à l'homme d'avoir plusieurs épouses. Le christianisme, c'est un homme, une femme. C'est la monogamie. Parfois, des musulmans qui marient des chrétiennes et qui se sont engagés à respecter la monogamie ne respectent pas leur engagement. Si bien que ce type de mariage reste problématique, nous ne pouvons pas garantir quelle pourra être la durée de ce lien. Et l'évêque doit donc, par ses prêtres, instruire ses dossiers et n'accorder la dispense de disparité de culte que s'il juge qu'il n'y a pas de danger pour la partie chrétienne. Mais ça reste toujours un pari difficile. Par ailleurs, je salue avec beaucoup de reconnaissance le pape François et l'imam de la mosquée El-Aqsa à travers leur déclaration sur la fraternité humaine, qui rappelle la base de notre condition. Nous sommes tous des créatures humaines, des créatures de Dieu, et c'est ce qui fonde notre rapport, c'est cette humanité d'abord. Le pape François a eu après le grand souci d'enrichir cette déclaration par la fameuse lettre Fratelli Tutti, qui est vraiment une mine extraordinaire pour bâtir une fraternité humaine. Voilà comment je pense et sens les choses.
Beaucoup de points de divergence, mais aussi quelques sujets qui vous unissent, notamment la position contre l'avortement.
Voilà, des points qui nous unissent, mais tout en disant quand même ce qui nous préoccupe, nous, comme chrétiens. C'est qu'en termes d'avortement, ce n'est pas seulement la question de ce que l'on pourrait faire des fœtus qui nous préoccupe, c'est le fait que la vie, de son commencement jusqu'à sa fin, se vit dans une continuité. Il ne peut pas donc y avoir un délai à partir duquel on doit se permettre de pouvoir dire « ici, on peut supprimer une vie ». Supprimer une vie, à quelque étape que ce soit, c'est s'engager dans un processus criminel. Et ça, nous le disons très clairement.
Pour revenir au cardinal Tiandoum, cette année, l'Église du Sénégal, et avec elle, celle africaine en général, commémore le centenaire de sa naissance. Y a-t-il des activités prévues dans le cadre de ces célébrations?
Alors, malheureusement, la pandémie a beaucoup impacté sur notre projet de fêter le centenaire du cardinal Tiandoum. Mais ce qui est prévu, c'est que nous puissions organiser un colloque sur le personnage, pour dire ses différents apports sur le plan de l'Église locale, qu'il s'agisse de l'expansion de la mission chrétienne, la promotion des vocations sacerdotales et religieuses, qu'il s'agisse aussi de la promotion du laïcat, qu'il s'agisse de faire vivre à notre Église une autoprise en charge plus forte, qu'il s'agisse aussi d'inculturation. Nous voudrions en tout cas visiter le personnage sous différents aspects, sans oublier bien sûr les rapports islamo-chrétiens. Il est prévu normalement aussi que nous fassions un grand jeu scénique qui rapporterait pour les jeunes générations, parce qu'on se rend compte que les jeunes, quand vous parlez du cardinal Tiandoum, le connaissent de moins en moins, de mieux appréhender la richesse de ce personnage. Nous avons eu à célébrer le 18 mai dernier l'anniversaire de son rappel à Dieu, et nous continuons à le porter dans la prière, ou plus même à nous recommander plutôt à sa prière, c'est ce que nous espérons maintenant, après tout ce qu'il a fait comme travail, la manière dont il a servi le Seigneur. Nous pensons qu'il est certainement auprès de lui et qu'il prie pour nous.
Finalement, quel héritage le cardinal laisse à l'Afrique?
Je retiens d'abord cette idée que ses aînés, qu'ils s'appellent Zungrana, qu'ils s'appellent Yago, qu'ils s'appellent Chandoum, qu'ils s'appellent Gantin, nous ont inculqué à nous, les jeunes qui ont suivi, l'esprit de fraternité et de collaboration. Et c'est l'esprit Serao qui s'est élargi aujourd'hui et qui rassemble pays anglophones, francophones et lusophones qui continuent à perdurer pour nous dire que dans cette Afrique, qui est le continent de l'avenir comme on dit, l'Église ne doit pas être en reste. Et un des aspects qui me paraît important parmi les challenges, les défis que nous avons, c'est la formation et la promotion des élites africaines à travers l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Voilà autant de défis que nos anciens nous ont laissés et dans lesquels nous essayons de nous inscrire pour essayer d'être fidèles à ce patrimoine qui nous vient d'eux.
C'était Mgr Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar au Sénégal. Il répondait aux questions de Donatien Niembo.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus. Ayana mondeni antizam.